Êtes-vous plutôt mer ou montagne? Ville ou campagne? Salée ou sucrée? La mode est aux sondages multiples et variés qui, soi-disant, vous renseignent sur votre personnalité. Et à coup de questions multiples, parfois farfelues, se révèlent à vos yeux ébahis vos préférences existentielles. Généralement, vous le savez, les réponses se comptabilisent avec des petits ronds, des petits carrés, des petits triangles. Alors si vous avez plus de carrés, vous préférez aller à la mer, plus de ronds à la montagne et plus de triangles, un peu des deux. Peut-être un jour notre Église pourra se lancer dans un tel sondage. Êtes-vous plutôt Ancien ou Nouveau Testament? Alors celles et ceux qui auraient le plus de carrés seraient définitivement amateurs du Nouveau Testament, bien plus agréable à lire, présentant l'idéal d'un amour parfait, une bonté apaisante. Celles et ceux qui auraient le plus de ronds seraient moitié-moitié. Pour eux, l'Ancien Testament a de la valeur parce qu'il annonce le Nouveau Testament. Et puis, il y aurait ceux qui préféreraient, eux, l'Ancien Testament, avec ses sagas, ses patriarches, ses récits de création, ces belles histoires qui font notamment le délice des enfants à l'école biblique. Noé et son arche, remplie de sa ménagerie universelle. On peut aussi apprécier l'Ancien Testament pour sa vitalité, son énergie, et peut-être aussi surtout parce qu'il raconte finalement l'état d'un monde dans lequel nous vivons aussi. Guerre religieuse, massacre d'innocents, œil pour œil, dent pour dent. Et puis quand même, au milieu parfois de ce chaos, surgit toujours une bonne nouvelle. Une des grandes sagas de l'Ancien Testament, c'est le Livre des Rois, ou plutôt les Livres des Rois, il y en a deux. Un livre un peu, comment dire, vous l'avez peut-être senti à la lecture tout à l'heure, j'ai essayé de mettre tout le ton possible pour vous la rendre agréable, un livre un peu rébarbatif parfois. Un livre qui nous décrit toujours sur le même motif les différents rois qui se sont succédés pour Juda. Un autre morceau choisi, cette fois dans le premier livre des rois au chapitre 15. Pendant la 38e année du règne d'Azaria sur Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à Samarie. Il y régna 6 mois. Il fit ce qui déplaît au Seigneur, comme ses ancêtres. Il ne cessa pas de commettre les mêmes péchés sur Jéroboam, fils de Nébat, qui avait poussé le peuple d'Israël à pécher. Un certain Shalloum, fils de Yabek, complota contre lui, l'assassina en public et prit le pouvoir. Voilà en fait ce qui est raconté dans les deux livres, tout le long des chapitres. Une succession de rois qui se détournent du Dieu unique, qui complotent et qui tuent. Alors, quand nous lisons au début du chapitre 22, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yedida et elle était fille d'un homme nommé Adaïa de Boscat. Josias fit ce qui plaît au Seigneur. Il se conduisit comme son ancêtre David, sans jamais s'écarter de son exemple. Alors, quand on arrive à un tel passage sur un roi qui respecte ce que Dieu demande, et un roi qui est même comparé au grand David, on ne peut que s'arrêter et essayer d'en savoir un peu plus. Alors, je vous invite à retrousser vos manches et à entrer dans ce texte avec le roi Josias. Et pour ce matin, je voudrais retirer quatre paroles. Tout d'abord la colère, ensuite les témoins, l'introspection et enfin la fête. Voyant la mauvaise conduite du peuple de Juda et de ses rois, Yahvé, le Dieu d'Israël, avait prononcé des paroles terribles contre ce peuple. Des paroles de désolation, d'exil. Et la bonne conduite du roi Josias n'adoucira pas la colère divine qui s'abattra contre le peuple. On lit cela plus loin dans le chapitre 22. « Voici ce que je déclare, moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu as entendu le message du livre. Tu as écouté attentivement ce que j'ai dit au sujet de Jérusalem et de ses habitants. Leur sort sera terrible. Leur nom servira dans les formules de malédiction. » Josias va se repentir, mais cela semble rester sans valeur aux yeux de Dieu. Nous pouvons d'abord trouver cela très injuste. La conversion de Josias et du peuple mériterait quand même une petite récompense. Nous avons une image tellement bienveillante de notre Dieu. Pourtant, et en cela Josias est remarquable, que serait une repentance véritable si elle attendait un retour, si elle savait déjà ce dont elle avait besoin? La grâce de Dieu sort du donnant-donnant. Elle sort de l'œil pour œil et du dent pour dent. La justice de Dieu n'est pas une balance où seraient sous-pesées nos bonnes actions d'un côté et de l'autre côté une condamnation divine. Dit autrement, se repentir devant Dieu, ce n'est pas une tentative pour se concilier ses bonnes grâces. On a tendance à le faire, ça, souvent. On demande pardon en espérant qu'il nous arrive de belles choses dans notre vie. Se repentir devant Dieu, c'est accepter notre faiblesse. C'est accepter d'être petit et d'avoir besoin de lui. Et toute chose nous sera donnée en plus. C'est une parole aussi qui nous est offerte dans la Bible. Par ses actes d'humilité, le roi Josias renonce à garder l'argent du temple pour sa jouissance personnelle. C'est ce qui nous est expliqué dans notre passage. Josias se met face contre terre devant Dieu et choisit de retrouver une relation véritable avec lui. Josias choisit de prendre le juste chemin, non par intérêt, mais parce qu'il souhaite entrer dans la vie avec Dieu. Et puis Dieu le voit, toute chose lui donnée en plus. Dieu le bénit, Dieu bénit sa vie. Les témoins. Ce roi Josias, par rapport à tous ses prédécesseurs qui ont manqué à leur devoir et à leur mission, est en recherche de vérité existentielle. Et il va la trouver. Il la trouvera, cette vérité, mais pas tout seul. Il est au bénéfice d'une chaîne de témoins. Ces témoins, dans le passage que j'ai lu, qui lui apportent le livre. Vous avez compris, dans le temple de Jérusalem, il y a des travaux à faire. Avec de l'argent bien employé, bien entendu. Le grand prêtre se réjouit de cela. Il donne à Chafan, le secrétaire du roi, le livre de la loi. Chafan le lit et il décide à son tour de l'emmener à Josias et de lui lire. Deux témoins se succèdent pour apporter la parole de Dieu au roi. Le roi décide alors de convoquer le grand prêtre, le secrétaire, Akbor et un de ses ministres, pas moins de 5 personnes qui sont là pour interpréter, pour lire ce que Dieu veut pour eux. Ici, dans notre communauté, et c'est la même chose pour toute communauté qui se réunit, il en faut des témoins pour que la parole puisse être lue le dimanche matin en chaire et toute la semaine. Il en faut des secrétaires, des plombiers, des peintres, des trésoriers, des visiteurs. Il en faut des personnes qui installent le chauffage, qui rangent, qui apportent des fleurs, qui changent des ampoules, des personnes qui sont là pour accueillir, des personnes qui jouent de la musique, des personnes qui s'occupent des enfants. Il en faut des personnes pour que la parole puisse être lue. Nous sommes une longue chaîne de témoins qui prenons succession à la suite de Josias, d'Hilkia, de Shaphan, qui nous ont aussi permis de pouvoir aujourd'hui lire ce livre. Car tout seul, sans les autres, nous ne savons pas faire grand-chose de la parole qui nous est donnée. Quand nous sommes ensemble, nous pouvons aller de l'avant, écouter, partager, s'encourager, pour être plus près de ce Dieu qui vient vers nous. Une introspection. À côté de la colère de Dieu qui nous dérange dans ces chapitres du Livre des Rois, il y a une autre aspérité de ce texte. Ce que l'on peut appeler pudiquement le grand ménage. Les textes des rois sont d'une grande violence vis-à-vis des partisans de Baal. Baal, c'était les dieux étrangers, les dieux païens. Le texte nous décrit une sorte d'épuration de ceux qui ne confessent pas le Dieu unique. Ouais. Pas évident. Pas évident d'être confronté à ces textes. Toute cette violence au nom de Yahvé, notre Dieu. Alors bien sûr, vous le savez, nulle question d'accepter, mais encore et toujours de condamner celles et ceux qui reprennent à la lettre cet inacceptable sentier de la violence au nom de Dieu. Et pourtant, ce texte peut nous provoquer en nous-mêmes, au plus profond de nous. Non pas pour voir ce que font les autres, mais ce que nous faisons en nous-mêmes. Ce texte nous convoque pour une introspection intérieure. Qui suis-je? Quels sont les choix de ma vie? Quel est le bien et le mal que je fais aux autres? Quelles sont les barrières que j'ai érigées en moi-même pour me couper de Dieu? Et cette quête peut parfois s'avérer violente, comme notre texte. Et pourtant, elle est porteuse de bénédictions. Je vous ai parlé au départ de quatre paroles, la colère, les témoins, l'introspection. Est-ce que vous vous souvenez de la quatrième? La fête. Notre chemin ce matin se termine par la fête. La fête de la Pâque juive. La fête de la libération par excellence, celle que Josias a fêtée au chapitre 23 du deuxième livre des rois. La commémoration de la fin de la servitude, le retour à la liberté dans l'alliance de Dieu. La fête comme une bénédiction pour le chemin accompli, mais aussi pour celui qui reste à accomplir. La fête comme un arrêt sur image, une pause dans nos vies. Parce qu'il faut se réjouir de cette parole qui nous est donnée, et en même temps, il faut trouver les moyens de continuer à la faire vivre dans notre quotidien. La fête de la Pâque de Jérusalem au temps de Josias, pour nous, c'est la fête du culte, cette fête qui est vécue encore et encore chaque semaine ensemble, là où nous partageons ce livre de vie. C'est aussi la fête quand nous partageons la scène, le pain et le vin, le repas du Seigneur. Et aujourd'hui, dans ce temps de carême, cette fête prend aussi le sens du chemin vers Pâques qui s'annonce. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, oui, malgré ces textes difficiles, arides, qui nous interrogent, malgré nos vies, qui ressemble aussi parfois étrangement à ces textes, nous pouvons fêter. Aujourd'hui, nous voulons encore faire la fête. Nous voulons nous arrêter pour nous réjouir ensemble du chemin parcouru, mais aussi pour nous relancer confiants dans l'espérance de nos lendemains. Vivons notre fête. Vivons-la pleinement. Elle nous est donnée. Amen.